Capítulo 3. Apprentissage clandestino. Certaines filles de mon âge se cachent de leurs parents pour fumer. D'autres pour échanger du blabla romantique avec leurs amoureux sur WhatsApp. Moi, j'ai été plus originale et je me suis cachée de mon père pour apprendre l'espagnol. Rémy a beaucoup insisté. Si je voulais percer l'énigme de mes rêves, il me fallait me mettre à cette langue.
Para comunicarse con los fantasmas, hay que hablar su lengua, m'a-t-elle répété.
Le plus simple aurait sans doute été de tout raconter à mon père. J'ai failli le faire à plusieurs reprises, mais je me suis toujours avisée à la dernière minute. Depuis notre dispute autour de l'allemand, j'avais remarqué qu'il évitait tout ce qui avait à voir avec l'Espagne. Un soir, au journal de 20 h, le présentateur a lancé un reportage sur je ne sais quelle crise politique entre Madrid et la Catalogne. Il a immédiatement changé de chaîne. Un autre matin, la radio s'est mise à diffuser une chanson en espagnol, « Despacito, quiero desnudarte a besos, despacito ». Tout de suite, mon père s'est levé et a éteint l'appareil. À cet étrange rejet de l'espagnol, il fallait ajouter son mépris pour l'horoscope, la divination et tout ce qui n'était pas 100% rationnel.
Ah, si seulement les gens faisaient un peu plus de mathématiques, s'exclamait-il à chaque fois qu'il entendait parler d'un attentat, d'une guerre ou d'un acte de barbarie quelconque.
Pour lui, les équations et le calcul de probabilité étaient le remède universel à tous les maux de la terre. Il croyait aux chiffres comme d'autres croient en Dieu. Qu'aurait-il dit, ou plutôt crié, en apprenant que je m'étais fait hypnotiser par une voyante espagnole ? Je tremblais rien que d'y penser. En conséquence, je prenais les mêmes précautions avec mon manuel « Olé » que s'il s'était agi d'une cargaison de cannabis. Je ne l'ouvrais qu'après m'être assurée que la porte de ma chambre était bien fermée. J'écoutais toujours le CD avec mon casque. J'apprenais par cœur les dialogues des différentes unités, même lorsqu'ils étaient bêtes à en mourir. Je ne reculais pas devant l'étude des verbes irréguliers, des pronoms, des prépositions. Yo, quepo, tu cabes, él cabe. Yo, me, mi, conmigo, a, ante, bajo, con, cabe, de, desde, en, entre. Même les subtilités de l'emploi de ser y estar ne me faisaient pas peur. Ser malo, être méchant, versus estar malo, être malade. Ser moreno, avoir les cheveux bruns, mais estar moreno, être bronzé. Ser bueno, être sage, à ne pas confondre avec estar bueno, être sexy. Certains mots comme pachucha, patraque ou traviesa, coquine, éveillait en moi des échos familiers, comme si je les avais déjà appris il y a très longtemps. Peut-être que dans une autre vie, j'avais été bailaora de flamenco ou torera, à en croire le manuel, ces deux professions occupaient la moitié de la population espagnole. Au fur et à mesure que je m'initiais au mystère de la langue, j'avais l'impression d'entrouvrir une porte qui donnait sur une partie inconnue de moi-même. Qu'allais-je trouver de l'autre côté? Parfois, l'excitation et la curiosité cédaient place à l'inquiétude. Je me rappelais certaines des images vues en rêve. Le chien s'enfonçant dans le sable, le V menaçant, écrit à l'encre rouge, et je me demandais s'il ne valait pas mieux que la porte de l'espagnol reste fermée pour toujours. Toutes les semaines, Laure et moi rendions visite à Rémy dans son appartement. Elle était ravie d'avoir de la compagnie. Souvent, elle nous faisait des gâteaux typiques. En fonction du calendrier, el roscón de Reyes à Noël, las torrijas à Pâques. Certaines des expressions que j'ai apprises chez elle gardent encore pour moi le goût sucré de ces desserts délicieux qu'elle préparait avec ses doigts de magicienne. Je parie qu'il n'y avait pas de meilleur cours de conversation en espagnol dans toute la ville, gratuit qui plus est. Le thème de chaque séance était imprévisible.
Parfois, elle nous parlait des pouvoirs des pierres. D'autres jours, elle énumérait les miracles accomplis par la Virgen de los Remedios, en l'honneur de laquelle elle avait reçu son nom. Quand il pleuvait, Remé devenait maussade et nous racontait des histoires de la guerre civile qui avait plongé sa famille et tout le pays dans la misère. Ce que Laure et moi aimions par-dessus tout, c'était les jours où Remé était d'humeur joyeuse et se mettait à évoquer des anecdotes de sa vie d'émigré en France. Elle avait passé sa première année à travailler dans les champs, aux abords d'un petit village proche de la frontière espagnole. À finales de agosto, era la fiesta del pueblo. Hubo un baile en la plaza. Un chico muy guapo me sacó a bailar. Yo bailaba casi tan mal como hablaba francés y le clavé mi tacón en el pie. «Désolé, je vous ai pissé», le dije. El pobre me miró con horror a mí y a sus pantalones y salió corriendo. Pisar, en español, voulait dire marcher dessous, nous avait expliqué Remé. Laure et moi rions aux éclats en imaginant la scène, le bal du village fin août, le beau garçon qui invite la jeune et maladroite Remé à danser et celle-ci qui lui écrase le pied avec son talon et s'excuse en toute innocence de lui avoir pissé dessus. Rien d'étonnant à ce que ce garçon se soit enfui après avoir regardé son pantalon. Qu'ils ont été drôles quand j'y pense, ces mois d'apprentissage clandestin. Pour justifier le temps que je passais enfermée dans ma chambre à étudier l'espagnol, je devais travailler aussi les autres matières, si bien que mes résultats, notamment en allemand, n'ont jamais été aussi bons que lors de ce semestre. Mon père, ravi de mes progrès scolaires, ne se doutait de rien. Tout allait donc pour le mieux, jusqu'à ce qu'au mois d'avril, mes nuits deviennent de plus en plus angoissantes. Partout où me menaient mes rêves, je sentais la présence d'une ombre menaçante qui scrutait chacun de mes mouvements. Si Laure avait partagé ma chambre, je suis sûre qu'elle aurait entendu des cris en espagnol. Un jour, j'ai supplié Remé de faire quelque chose pour arrêter ses cauchemars. Après la séance d'hypnose à coups de buñuelos, elle avait toujours refusé d'exercer à nouveau ses pouvoirs sur moi. Devant mon désarroi, elle a accepté. « Apaga la luz, por favor », m'a-t-elle demandé. J'ai éteint la lumière du salon. Remé a pris deux agates de sa collection de pierres magiques et a déposé leur surface tiède sur mes paumes tournées vers le haut. Elle a ensuite mis ses propres mains sur les pierres et a fermé les yeux dans la pénombre. « Veo oscuridad, mucha pasión, mucho sufrimiento, un amor con el color de la muerte. » Obscurité, passion, souffrance, un amour de la couleur de la mort. J'étais impatiente de connaître la suite, mais Remé a ouvert brusquement les yeux. Elle avait l'air essoufflée. Pour la première fois, elle faisait bien son âge. « Lo siento, cariño. Ya estoy vieja. » J'ai eu l'impression que la vieillesse était une excuse pour me cacher quelque chose qu'elle avait vu dans sa transe et qui l'avait effrayée. Laure était du même avis que moi. « Tu crois vraiment à la magie ?» lui ai-je demandé en rentrant à la maison. « Je ne sais pas si je crois à la magie, mais je suis certaine que je crois en Remé, » m'a-t-elle répondu.